I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue au Casque et l'Enclume, un nouveau numéro de LCLE, le comeback, le retour. On est là avec Pierre Mogin. Salut Pierre.
Salut.
Qui n'a toujours pas mangé et qui garde un sourire quand même impeccable. C'est vrai. Noté.
Je suis constant.
Et ouais, tu es constant. C'est ça, c'est bien. C'est d'avoir ce caractère qui est toujours là. Stéphane Moïsakis, comment ça va?
Ça va, Jean?
Écoute, ça va pas mal. Ouais, écoute, on est bien là.
Ça va aussi. J'ai pas mangé non plus.
Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais.
Mais tu sais que tu vas pas me plaindre.
Et tu as une bonne humeur dans la voix qui est. Alors peut-être qu'Alain qui réalise cette émission a lui perdu, mais on l'entendra pas.
Lui, donc voilà.
Fin, lui, il a très faim. On entend l'estomac d'ici, donc on va essayer de se dépêcher. On le remercie de nous supporter pour cette émission un peu spéciale. On va faire comme nous un comeback sur un jeu qui est, on va dire, sorti sur un pied, voire sur la moitié d'un pied. Ça s'appelle Cyberpunk. En titubant un peu. Ouais. Et puis, il a pris quelques coups. Ça s'appelle Cyberpunk 2077. C'est-à-dire qu'il a pris autant de coups que ce qu'il était attendu. Donc, on a fait un retour autour de Elden Ring la dernière fois. Et on a eu pas mal de retours, nous aussi. Donc, je les cite au passage. Hein, Dirty Noz qui nous dit enfin le retour du casque et l'enclume après 2 ans de pause chez Capture le Mag et sur Elden Ring pour cet épisode. C'est parfait. Pour Bergamote, quel bonheur de retrouver la clique de critique vidéoludique avec Jean Z, le casque et l'enclume qui attaque un gros morceau. Alors, Elden Ring, quelle build aviez-vous? Alors moi, je l'avais cité déjà, j'avais pris force, malheureusement, si j'avais su.
Et moi, c'était je suis plus dextérité et intelligence.
Ça rame au début, mais alors après, ça dévastateur.
Ça reste dur pour l'instant.
D'accord, ouais, t'es pas arrivé.
Force, hein.
Force, ouais,
évidemment.
Ouais, c'est le mode difficile hein, sur Elden Ring. Sarou, quand mon podcast favori relance le casque et l'enclume et parle de mon deuxième passe-temps favori, le jeu vidéo, mon cœur n'est que joie. Et enfin, Jean, super content de retrouver ce podcast que j'affectionnais. Et en plus, il y a Marélis dedans, que demande le peuple.
Alors, elle n'est pas là aujourd'hui.
Elle n'est pas là aujourd'hui. Non, désolé, elle n'est pas là. Donc, pour le coup, Cyberpunk, je pense qu'elle n'en a absolument rien à faire.
Elle
fait partie de l'autre pied.
Elle avait dit qu'elle y avait joué à l'époque, mais qu'elle n'a pas rejoué. Quoi.
Ouais, ce qui était normal à l'époque.
C'était déjà difficile à jouer à l'époque.
Ouais, ça dépend sur quel. C'est ce qu'on va dire. Ça dépend sur quel support on va en parler. Donc, au programme de ce jour, dans les transports, dans vos oreilles, si vous êtes en train de chiller sur le canapé où vous soyez, Cyberpunk 2077, donc le jeu de CD Red Project. Qui avait fait tant parler de lui avant sa sortie. Stéphane, qui a proposé ce jeu, qu'on en reparle, hein, le jeu est sorti en 2020. C'est une adaptation d'un jeu de rôle, célèbre jeu de rôle paru à la fin des années 80, jeu de rôle papier, hein, on s'entend signé Mike Pondsmith. On en reparlera parce que c'est important de le dire, parce que le choix de ce type de jeu de rôle est important et va, on va dire, signer un peu l'ADN de ce qu'est Cyberpunk 2077. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu voulais reparler, toi, de ce jeu?
Pour être totalement transparent, c'est Alain ici présent en fait, qui m'a suggéré le truc, et c'est vrai, j'ai trouvé ça plutôt pertinent.
Bon, il a pas dû mettre longtemps à te pousser.
En fait, il a dit Cyberpunk 2077. J'ai fait allez, on y va. Parce que déjà, il faut savoir qu'ils ressortent en next-gen là, donc en fait, avec normalement une mise à jour qui améliore, on va dire, toutes les problématiques qu'on avait à l'époque, qui étaient des problématiques de bugs absolument désastreuses. Voilà. Il se trouve qu'ils ont amélioré l'expérience de jeu sur les consoles actuelles, hein, c'est-à-dire PS5 et
celle qu'on n'arrive pas à acheter. Enfin,
voilà, exactement, celle que vous n'avez pas forcément tous chez vous, malheureusement, parce que ça devient compliqué quoi, à trouver, malgré le fait que c'est maintenant un an et demi. Hein. Et par contre, effectivement, d'après ce qu'on a compris, les versions past-gen, elles sont toujours aussi catastrophique. Ouais. Voilà.
Donc c'était bon prétexte pour
revenir. C'était un prétexte et surtout moi c'est un jeu que j'ai quand même un peu saigné. Hein. J'ai passé 125 heures dedans donc on a des choses à dire je pense. Et puis c'est un mammouth de ces dernières années. On n'avait pas fait de casque à l'enclume à l'époque puisqu'on était en pause. Donc je pense que c'est pas mal de revenir là-dessus. Il y a des ponts avec le cinéma.
Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux ayant eu autant de hype d'ailleurs avant la sortie et pendant la douloureuse sortie. Mais enfin quand même, c'est-à-dire que vraiment c'est un jeu qui était promis à être une pierre angulaire, quoi, enfin, en gros, hein, on attendait ça comme un grand jeu, non, il me semble, à l'époque.
Ah oui, ben, c'est, enfin, surtout qu'il sortait quand même de Witcher 3, qui était une sorte de, enfin, de RPG tentaculaire, enfin, on avait rarement vu des RPG avant Skyrim de ce calibre-là, en fait. Et c'est vrai que, ben, forcément, notamment sur le côté où, enfin, moi, je suis plus client de SF, globalement. Et de Cyberpunk, et c'est vrai que là, pour le coup, le fait d'avoir une ville en tant que terrain de jeu total, ça me fascinait par rapport à justement ce qu'ils avaient fait sur The Witcher. Et donc, effectivement, l'attente était là. Après, bon, derrière, c'était un peu plus compliqué.
Flashback, ça raconte quoi déjà, peut-être Cyberpunk? Est-ce que ça a une importance, l'histoire? Est-ce qu'on en parle?
Oui, je pense que, en fait, c'est même, à mon sens, un des atouts du jeu, parce que c'est plutôt bien raconté. Vraiment, c'est difficile de raconter une histoire dans un jeu vidéo. Hein. On en a parlé plusieurs fois dans le casque et
complètement.
Tout.
Complètement.
Il faut trouver les. Comment dire.
Les clés, les systèmes,
ouais, voilà, et puis surtout le rapport au joueur-spectateur, si tu veux, puisque en fait t'es joueur, t'es pas spectateur, voilà. Ce que ça raconte, en fait, en gros, parce que c'est intéressant aussi d'en parler, parce que c'est aussi un jeu qui a des ponts, je trouve, avec le cinéma. C'est un jeu qui a des ponts avec tous ces trucs-là. Donc pour les auditeurs de Capture Max, ça peut aussi les intéresser. Ne partez pas, c'est parce qu'on parle de jeux vidéo que voilà quoi. Non, ça raconte. Alors, c'est-à-dire, ça raconte l'histoire de V. Qui est au choix, en fait, un personnage qui a trois backgrounds différents, si je dis pas de bêtises. Donc, toi, soit un background de nomade, soit un background de corpo, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et le troisième, c'est.
Le troisième, c'est.
Le gosse des rues.
C'est ça, gosse des rues, voilà, c'est ça.
Donc, en fait, c'est toi, t'es un espèce de civil, loubar, branleur dans les rues de...
Night City.
Night City, ouais, c'est ça. Qui est une espèce de Los Angeles tentaculaire, voilà. Très cyberpunk, très Blade Runner, très beaucoup de références comme ça. Donc c'est un de tes choix. Et suivant ces choix-là, en fait, tu te retrouves en fait à devoir voler ce qui s'appelle la clé de l'immortalité, en fait. C'est-à-dire une espèce de puce qu'on va t'intégrer dans un cortex cérébral, en fait, dans ton cortex cérébral, parce qu'en fait, dans cette puce-là, on a réussi à numériser la conscience humaine. Et il se trouve que la conscience qui a été numérisée, Johnny Silverhand, qui est en fait un terroriste des années. C'est-à-dire que dans l'univers, j'avais parlé des univers papier, enfin des RPG papier, c'était Cyberpunk 2013 et Cyberpunk 2020.
Exactement.
En fait, c'était des histoires en fait qui présentaient cet univers-là, cet univers de Cyberpunk en fait très foisonnant, avec clairement des référencements à Mad Max, des référencements au Cyberpunk en fait de William Gibson, de toutes ces choses-là, quoi. Et en fait, Johnny Silverhand, en fait, c'est un rocker. C'est un personnage qui existe déjà dans ses versions papier, qui est un rocker, en fait, si tu veux, terroriste, qui se bat contre les corpos, quoi, et qui en fait fait sauter une tour en 2020, et en gros, qui meurt dans cet attentat-là. Ce personnage-là, dans le jeu, il est interprété par Keanu Reeves. Et en gros, progressivement, tu vas te voir toi te battre en tant que ton personnage, c'est-à-dire ton propre V, c'est une personnage que tu crées de toi-même, hein, tu peux en faire un peu ce que tu veux, quoi. Homme ou femme, voire non-binaire, en fait, t'as vraiment tout un choix et tout spécifique autour de ça, quoi. Et en fait, la conscience de Keanu Reeves, la conscience de Johnny Silverhand, prend petit à petit sur toi, en fait, sur la tienne. Et la question, en fait, c'est de savoir comment est-ce que tu vas réussir à tenir par rapport en fait à ce personnage-là et quelle va être ta relation avec ce personnage-là. Après, tu as toute une histoire autour de ça et le fait que les sbires que te recherchent en fait parce qu'ils veulent absolument mettre la main sur la puce en question parce que c'est un prototype. Donc je sais pas si j'ai très bien résumé le truc, c'est quand même
dans
complexe.
Un univers très tribal, voilà. Mais c'est tribu, on sait que c'est
Ah oui, clairement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est justement le fait que la puce soit intégrée à son insu, c'est-à-dire que c'est un braquage à la base,
c'est
lui en fait pour s'en sortir, il s'intègre la puce en lui pour pouvoir échapper justement à ses poursuivants. Et c'est là justement où ça commence et où justement lui, il n'avait pas prévu de se faire envahir par cette personnalité-là.
Ouais, oui, il y a une espèce de schizophrénie qui se fait tout au fil de l'aventure avec ce Keanu Reeves. Il a de l'aura, il a un charisme certain, donc il est là, tu peux pas. Ouais. Voilà, à chaque fois qu'il t'envahit quelque part, voilà, ça donne des scènes assez marquantes. Je parlais de l'univers papier parce que c'est la première adaptation de cyberpunk, de l'esprit cyberpunk en jeu de rôle papier, celle de Mike Pondsmith. Donc c'est Cyberpunk 2013, tu le disais. Alors pourquoi je parle du jeu de rôle papier? Il est important parce que c'est un univers qui est peut-être plus Mad Max que William Gibson ou le Blade Runner de Ridley Scott. C'est-à-dire que, on va dire que la question du transhumanisme, elle n'est pas posée d'un point de vue existentiel, mais plus d'un côté rock'n'roll et Mad Max. Et c'est exactement ce qu'on retrouve. Et c'est peut-être là aussi où il y a une part d'incompréhension entre le cyberpunk, qui est un sous-genre de la science-fiction, où on demande une espèce de question philosophique, on demande une part de philosophie, et le cyberpunk 2013, qui est beaucoup plus bourrin, tribal, énergique.
Et qui est complètement années 80, en fait. C'est-à-dire que, quand tu regardes un peu, je veux dire, c'est dans la mouvance d'un Akira, de Katsuhiro Otomo, ce genre de choses, en fait. C'est-à-dire que vraiment, en fait, il y a une approche de la science-fiction qui est totalement... quand on dit cyberpunk, le mot punk, en fait, si tu veux, il rentre aussi
et
là-dedans.
Beaucoup plus en avant.
Voilà, et ça, c'est beaucoup mis en avant, effectivement. Quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a eu, en fait, un dérivé, en fait, de cyberpunk à partir du début des années 90, avec quand le cyberpunk japonais, entre guillemets, et s'est inscrit dedans, avec notamment, comme tu parlais d'Akira, ou de Ghost in the Shell, voilà. Où là, en fait, il y a eu beaucoup plus une mise en avant du corps en tant que réflexion sur le corps. Est-ce que comment on change un corps en mettant du mécanique, effectivement, qui est une autre piste en fait du cyberpunk, quoi.
Voilà, je comprends pas, parce que moi je vous écoute, moi j'y ai joué au jeu, hein, donc je vais pas faire faute. Mais je vous écoute, j'ai envie d'y rejouer au jeu. Donc il y a un problème, parce que la sortie, elle s'est pas du tout passée sous cette ambiance, en tout cas l'ambiance médiatique, l'ambiance du bruit, et je dis médiatique, je parle pas des journalistes, les méchants journalistes, attention, hein, il y a les réseaux sociaux, les gens qui trollent, machin, etc. Donc toute une espèce de, voilà, quand je dis médiatique, c'est-à-dire ensemble de beaucoup d'observateurs qu'on peut entendre, comment se fait-il qu'un jeu aussi assez ambitieux, en plus narrativement, plutôt défoulant, j'allais dire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'action, a-t-il pu planter, on va dire, sa...
Je pense qu'il faut,
à ce point,
alors, je pense que déjà, il faut partir du principe, enfin, faut parler de la façon dont le jeu a d'abord été vendu.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en gros, au-delà de la hype, au-delà de tout ça, on a vu beaucoup de choses sur... en vidéo, si tu veux, c'est-à-dire donc des images qui sont contrôlées, quoi, si tu veux. Donc, quand les mecs te montrent ça, ils te montrent ça sur le PC, ils te montrent ça sur le PC de compète et tout ça, etc. etc. Donc, et d'ailleurs, d'après moi, j'ai testé le jeu la veille de la sortie, c'est-à-dire que vraiment, je n'ai eu qu'un code à ce moment-là. J'ai joué sur console. Alors moi, il se trouve que j'ai eu du bol parce que, en gros, il y a eu des bugs, hein, sur ma build et tout ça, mais en fait, j'ai joué sur Xbox Series X. Ça veut dire que c'était une build de Xbox. Mais en fait, comme elle est boostée par la console en elle-même, quoi, du coup, c'était plutôt comment dire, correct. Alain, qui a beaucoup joué aussi, là, qui peut pas parler parce qu'il a pas de micro, mais en fait, il a joué sur PS4, lui, il a eu des bugs aussi, mais apparemment, ça fonctionnait plutôt pas mal. Quoi. Enfin, on a pas mal échangé à ce moment-là.
Ouais, mais il n'entendait rien.
Hein,
il n'entendait rien, sa console faisait un bruit de fusée.
Bah, je pense ouais, peut-être, mais tu vois... Attends, je vais lui poser la question, c'était la version PS4 Pro ou quoi?
C'était la PS4 Pro.
Ah, la PS4
Pro. Donc, en fait,
elle fait un peu moins de bruit.
Voilà, il y avait un peu. Non, mais disons qu'il y a quand même aussi. Voilà, mais c'est vrai que je pense que en fait, le déchaînement, on va dire, de
réaction. Hein,
ouais, de réaction.
Voilà, plus ou moins troll, hein, mais.
Ouais,
pas toujours troll. Hein,
pas toujours troll, parce qu'en fait, il est aussi généré. Alors, ça a généré deux incompréhensions, je pense, de manière. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire voilà, le jeu, il est injouable. C'est pas vrai, il était jouable. Mais par contre, il était bourré de bugs, il était bourré de machins. Je vais donner un exemple, en fait, ça plaira pas à Ubi, hein, ce que je vais dire, mais exactement au même moment, en fait, Assassin's Creed Valhalla est sorti avec des tonnes de bugs aussi. Des tonnes de bugs. Hein. Et en gros, pas aussi, évidemment, pas autant que sur, comment dire, qu'on soit clair, hein, ouais. Que Cyberpunk. Mais du coup, Cyberpunk a tellement pris le dessus qu'en fait, Valhalla s'est fait bon, tranquille, on passe. On passe entre les gouttes, quoi. Mais ce trollage, c'est pas du trollage, en fait, forcément totalement disproportionné. Le seul problème de ce trollage-là, à mon sens, c'est qu'en fait, il a généré une idée que le jeu est injouable, ce qui n'est pas tout à fait vrai.
D'accord.
Il est jouable sur certains.
Oui, PS5, voilà, les nouvelles générations et les PC,
voilà,
s'en sortaient plutôt très bien.
Il fallait être équipé, il fallait avoir ce qu'il faut pour y jouer, il fallait avoir tout ça. Donc je suis d'accord que ça devenait un problème de nouveau riche, quoi, de pouvoir jouer à Cyberpunk alors qu'en fait le jeu était censé sortir sur toutes les plateformes en fait disponibles à ce moment-là.
C'est ça, et aussi. Et puis le problème, comme
ils l'ont caché, c'est ça.
Oui, ça ils l'ont caché.
C'est parce qu'ils l'ont caché que ça a généré en fait toutes ces voilà, ils ont énormément contrôlé les reviews sur PC avec des gens qui apparemment, d'après ce que j'ai compris, jouaient en fait, sous contrôle de CD Projekt.
Et puis, ils n'avaient pas envoyé non plus les versions PS4 et Xbox avant la sortie aussi.
Voilà, exactement. C'est vraiment ça, quoi. Et l'autre truc, c'est que pour avoir essayé de monter un dossier que j'ai pu monter, en fait, autour du jeu dans un magazine qui s'appelle Geek Magazine, ça a été très, très difficile. Et j'ai eu beaucoup d'aide de la part des RP ici, tu vois, pour arriver à avoir des interviews en fait autour du jeu, quoi, parce que en fait ils ne communiquaient plus, ils ne voulaient plus, voilà. J'ai eu quand même quelqu'un qui m'a parlé, quoi, mais en fait évidemment moi j'avais pas pu toucher à une build à ce moment-là, donc du coup en fait c'était un dossier un peu preview, quoi.
Et ça, c'est ils ont vraiment tout bloqué, parce que enfin tu parlais de Valhalla, justement, en fait la différence entre les deux, c'est que enfin Valhalla il a été peut-être montré un an ou 1 an et demi avant la sortie. Cyberpunk c'était presque 10 ans, en fait, c'est-à-dire que la première annonce est 2012. Ils ont montré le jeu en 2016, plus ou moins. Il y a eu une build à l'E3 en 2018, ce qui était complètement fake, enfin, ils l'ont avoué. Et c'est vrai qu'en fait,
mais qui reprend par contre un truc qui est dans le jeu. C'est-à-dire voilà, que vraiment, en fait, c'est le début du jeu et on le voit.
Ce qui avait été vu en 2016 n'était pas du tout dans le jeu au final. Enfin, c'était plus une sorte de. Un peu un mood board interactif, quoi, de ce que le jeu voulait montrer. Et c'est vrai que la première fois que les gens ont pu ou y jouer ou le voir vraiment, c'est en 2018. Il y a eu encore du temps avant qu'il soit vraiment visible en tant que jeu finalisé, entre guillemets. Et c'est vrai que, justement, il y a eu un très bon papier de Jason Schreier sur le sujet. Il expliquait justement qu'en 2016, il y avait vraiment une sorte de reset d'énormément en fait, de pans du jeu. Ils sont quasiment repartis de zéro. Et c'est un développement hyper chaotique. Et c'est surtout que ce qu'ils ont promis et ce que les gens attendaient n'était pas du tout là. Et c'est vrai que là où Valhalla promet rien de spécial qu'un Assassin's Creed que les gens connaissent et dont ils ont à peu près les codes, là, les gens attendaient vraiment une proposition extrêmement originale et différente, et c'est pas du tout ce qu'ils ont eu au final. Quoi.
J'aime bien Valhalla, donc je fais une petite parenthèse. Je vous vois taper un peu dessus, là.
Non, c'est pas pour taper.
J'aime bien Valhalla, donc ne soyez
pas gentil. C'est pas pour taper sur Valhalla automatiquement, c'est vraiment la comparaison au moment où les deux jeux sont sortis quasiment en même temps, et surtout, à mesure de... Tu vois, il y a un précédent chez Assassin, c'est-à-dire que Assassin's Creed Unity, quand il est sorti, pareil, il était surbuggé. Et en gros, il y a eu énormément de trolls. Moi, je parle même pas de la. J'ai pas fait une Unity, tu vois. Donc,
j'ai fait. Je l'ai pas trop senti, mais il y avait beaucoup de vidéos
c'est...
dessus.
Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est juste, en fait, c'est un équivalent, on va dire, de trollage sur Internet, tu vois. Et Cyberpunk, ça a dépassé totalement le troll.
Oui, mais parce qu'il y avait un problème de promesse. Hein, parce qu'effectivement, quand les vidéos le lendemain, je me souviens, je crois que c'est Gotoz ou je sais plus qui avait mis. Enfin, en tout cas, je suis tombé là-dessus. Et donc, il se balade en ville sous PS4. Bon, il y a un problème de promesse, c'est-à-dire en 2020, d'un univers urbain GTA V qui est passé par la fin. On n'est pas dans un domaine de science-fiction sur GTA V, mais ces villes urbaines dont on sait très bien qu'elles sont très compliquées à monter, parce que pour rendre vivantes, c'est un effroyable cauchemar et que voilà, il faut un savoir-faire à la Rockstar ou des gens comme
systèmes,
ça.
Des systèmes sur systèmes.
Ah, voilà, exactement. Ouais. Et là, tu fais. Ah ouais, mais là, il n'y a plus que 4 personnes. Quoi. Et les 4 personnes ne sont pas très intéressantes. Tu t'approches du policier, il n'a pas de face. Et là, tu fais. Là, ça devient compliqué sur la promesse. Hein, j'entends bien sur la promesse. Parce que si on te le montre comme ça d'entrée, tu fais bon, bah voilà. Alors, mais là, il n'y aurait plus
un autre, élément peut-être à prendre en considération, c'est que, en fait, dans l'année 2020, le jeu a été repoussé très régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, il devait à la base sortir en avril 2020.
Au moins, fin
août 2020 ou septembre 2020, je crois. Et puis ensuite, finalement, pour novembre, pour finalement sortir début décembre, etc. Ouais. Et tous ces reports-là. En fait, cachait fondamentalement une restructuration en fait de parce qu'on le sait que ces jeux-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui se font dans la dernière année de développement quoi. Parce
même des fois derniers mois. Enfin,
c'est ça. Et en gros, la problématique, c'est qu'avec la pandémie et avec le Covid et avec un studio qui avait une habitude à parler ça, ils ont communiqué dessus. Ils l'ont dit après, a posteriori, ils l'ont pas dit sur le moment, mais ils l'ont dit vraiment a posteriori. C'est tout le problème, c'est qu'ils auraient dû communiquer en fait sur ces choses-là, prendre un vrai. Truc de se dire, ok, vous savez quoi, avec la cause de la pandémie, il faut qu'on repousse d'un an.
Ouais, c'est sûr.
De toute façon,
le Covid, ça, on comprend bien qu'il y a eu des problèmes de production. Le télétravail, il a fallu s'organiser.
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir un studio en fait, qui a l'habitude de fonctionner en vase clos avec 250 personnes qui bossent dans le même building, en gros, dans le même immeuble, là, d'un seul coup, en fait, réorganiser la structure en fait, de télétravail avec tout ce que ça comporte en fait, comme perte en fait, de communication. Bah, en gros, je pense qu'ils ont morflé très cher en fait sur la fin du développement. Quoi. C'était pas du tout le moment où il fallait que ça arrive. Quoi.
Non, clairement. Et puis, c'est vrai qu'en plus ils ont eu aussi pas mal d'écueils dans le sens où Witcher a aussi demandé plus de gens que prévu à la base. Il y a eu beaucoup de choses aussi à régler à la sortie de The Witcher. Donc, une partie de l'équipe qui bossait sur Cyberpunk est venue en renfort. En fait, donc ils ont eu beaucoup de coups d'arrêt comme ça. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Stéphane. Le truc, c'est que en fait, c'est un vrai manque de transparence, quoi. C'est-à-dire que s'ils avaient juste expliqué, en fait, on a pris du retard pour X raisons, pour le Covid, pour des besoins de renfort, et le jeu, on ne sortira que l'année prochaine. En plus, ça leur aurait épargné, et ce qui, pour moi, ce qui leur a aussi coûté beaucoup, c'est qu'ils se sont concentrés à la fois sur les versions des générations actuelles de consoles, PS5, Xbox Series, et PS4, Xbox ancienne. Et le problème, c'est que ça, en termes d'adaptation de moteur, en termes de conception d'assets,
le multiplateforme, ça les a complètement.
C'est un travail énorme, et le truc, c'est que ils avaient mis en place des précommandes un an et demi en amont et ils savaient très bien où ils allaient. Et le problème, c'est qu'effectivement, l'agression entre guillemets sur Twitter et sur les réseaux sociaux et tout ça est venue du fait que beaucoup de gens avaient précommandé ces versions-là parce que les consoles nouvelle génération n'étaient pas installées. Et le truc, c'est qu'on leur a livré un produit pas fini, un produit limite décent. Et le problème, c'est qu'ils auraient dû prévenir. ils auraient dû ou alors annuler les précommandes ou quitte à perdre de l'argent, mais mine de rien, cet argent perdu à ce moment-là n'aurait pas écorné en fait leur réputation comme elle a été après en fait.
18 millions, je crois 18 millions et demi de Cyberpunk 2077 écoulé, donc ça reste quand même un chiffre extrêmement décent. Je suis pas sûr que ce soit leur chiffre de rêve, hein, en fait, à vrai dire. Je pense qu'ils rêvaient de plus et que le jeu a dû coûter extrêmement cher, hein, 10 ans, enfin, quelque chose comme 8 ans, 9 ans de développement. Bah, c'est en gros le développement de Red Dead 2, hein, aussi, ou même de GTA, je pense, enfin, quelque chose comme ça. On est sur des énormes jeux. Moi, j'allais dire sur sur l'impact du jeu, moi, quand je l'ai eu, alors c'est pas tant ça qui m'a posé problème. Moi, j'avoue, j'y ai joué sur Stadia. J'ai eu un code Stadia, je sais pas pourquoi.
Voilà. Et pareil,
on est deux le seul, on doit être quatre en France, avoir joué le jeu sur Stadia. Et on en a deux quand même dans la même émission. Et en France. C'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Comme c'est à noter, c'est un moment assez singulier dans l'histoire du jeu vidéo. C'est beau. Bon, alors le jeu était parfait. Le coup, ça tournait nickel. Hein. Il y avait de PC de la NASA qui tournait au loin, là, et ça marchait très, très bien. Non, moi, là où j'étais vraiment le plus déçu, mais c'est en partie ma faute. C'est pas en partie la faute. En tout cas, c'est la communication. C'est le film que je m'étais fait à l'idée de jouer à Cyberpunk. Jeu que j'aurais aimé
ultime quoi.
Ouais, le jeu que j'aurais aimé jouer voilà, et c'était pas le jeu que j'ai eu entre les mains. Voilà, j'ai pas eu le jeu que j'ai eu entre les mains. Je trouve que les blagues autour des God Miché, ouais, c'est du.
Non mais c'est dire que vu, là, apparemment ils ont fait une mise à jour en fait pour en enlever.
On enlevait beaucoup, ouais.
Et moi j'en ai pas vu tant que ça en fait. Mais je me dis, tu vois, soit j'ai pas l'esprit mal tourné, soit j'en sais rien.
Parce que au début il y en avait vraiment partout, après effectivement ça a disparu un peu.
Et je me dis mais pourquoi, enfin cette espèce d'humour, là, il faut le manier, et il faut bien le manier, et n'est pas GTA qui veut, donc il faut. Mais bref, en tout cas, c'est pas le jeu que j'aurais aimé avoir entre les mains. Donc c'est vrai que je préfère le dire d'ailleurs d'entrée, c'est très difficile à juger pour moi, c'est qu'il y avait vraiment une déception initiale où j'aurais aimé avoir un peu plus de, on va dire, de cyberpunk japonais, ou un peu plus Ridley Scottien, un côté métaphysique un peu plus appuyé qu'un côté plus bourrin, qui est super bien, attention.
Ceci dit, il y a une énorme, enfin dès le début, le transhumanisme, il est...
Ah non, mais les gens sont traités, les sujets sont là, de toute façon, c'est les sujets du cyberpunk sont là, si vous voulez, mais c'est un aspect très coloré, très tribal, très punk, très années 80, très flashy, américain, qui moi me met en, voilà, exactement, et moins européen ou moins japonais, m'a mis un peu plus en porte-à-faux. Mais là, ça reste ma personne, et je pense que qu'on n'est pas le seul, en tout cas pour en France ou
je suis pas le seul. Sans forcément rentrer dans les détails de l'intrigue, hein, parce que c'est assez tentaculaire. C'est un jeu qui est construit en fait, c'est-à-dire que on va en parler, hein, du monde ouvert en fait du jeu en soi. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu, hein, vraiment. Hein, j'ai passé beaucoup de temps dedans. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps dans un jeu, tu vois, avec un univers qui m'a vraiment en fait happé. Puis moi, je suis ce que j'appelle du cyberpunk à papa, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, c'est vraiment, je suis de cette génération-là. Donc pour moi, c'est totalement, enfin, je suis totalement dans mon élément. Je comprends exactement quelles sont leurs références et tout, quoi. Ce que je trouve très intéressant, en fait, si tu veux, c'est que j'ai pas fait Witcher 3, donc là, je vais le dire. Moi, j'attends qu'ils fassent une version.
Il y a aussi The Witcher.
Qui avait créé une hype automatique.
Exactement.
En fait,
qui fait que moi,
j'avoue que comme j'ai pas eu cette, c'est-à-dire que c'est pas que j'ai pas envie de faire Witcher 3, hein, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion en fait de plonger 200 heures dedans.
C'est ça.
Je sais pas, je devais faire un jeu à la con à côté ou je sais pas quoi à la place, tu vois. Mais en fait, je veux le faire. Et en fait, c'est un truc que. Et à plus forte raison après avoir joué à Cyberpunk 2077. Mais j'attends qu'ils sortent une vraie version maintenant next-gen.
T'inquiète pas, ça arrive.
C'est ce qu'ils disent, c'est pour ça que je suis patient, quoi. Mais du coup, j'avais pas cette déception, en fait, qui était liée à celle de Witcher 3. Mais dans la construction qui est intéressante, en fait, c'est que si c'est un jeu qui a une storyline en fait de 20-25 heures, on va dire, hein, c'est-à-dire que voilà, relativement linéaire, avec plusieurs fins différentes par contre. Et en gros, sans encore une fois spoiler forcément en fait les différentes fins et les différentes directions qu'on peut prendre, je trouve ça assez rare déjà que chaque fin se tienne à peu près. Parce que toi, généralement, pour moi, quand tu racontes une histoire, il y en a une qui tient, et puis les autres, en fait, c'est roule ma poule, quoi. On YOLO, on y va comme on peut, quoi. Et là, en fait, si tu veux, moi, la toute première que j'ai eue, c'était une des fins les plus nihilistes et les plus. Mais en plus, par le choix, un choix très bizarre, en fait. Si tu veux, j'ai fait un choix spécifique. Et en fait, une fin nihiliste, en fait, qui est un espèce de suicide généralisé, quoi. Et là, c'était d'un seul coup, je me suis dit, c'est non climatique. Il n'y a pas de climax, il n'y a pas de truc. Et en fait, les 120 heures que j'ai passées dans le jeu, parce qu'en en fait, il y a 25 heures de storyline, mais il y a aussi toutes les quêtes annexes que tu fais. Mmh. J'ai vraiment essayé de les saigner en fait, au fur et à mesure pour avancer dans l'intrigue. Voilà. En fait, je l'ai senti. Donc, sans forcément parler en fait, de cet aspect philosophique, tu vois, je trouve que l'ambiance en fait, du jeu et le côté noir et un peu voilà, à l'européenne, pour le coup, un peu, je trouve, mm-hmm. tu vois, était vraiment là. Quoi. Y a un
en tout cas, ils vont jusqu'au bout de leurs idées.
Ah ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça assez prenant et assez touchant parce que en fait, cette fin a vraiment misé sur ma relation avec le personnage de Keanu Reeves.
Mais en fait, ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement. Pour moi, en fait, on parle de storyline, effectivement, il y a un scénario de base, un fil rouge, en fait, qui va se dérouler au fur et à mesure du jeu. Et effectivement, il n'y a pas vraiment de moment de bravoure ou de grand rebondissement ou de retournement.
Rebondissement, non, mais par exemple, tu as des vrais wow moments, c'est-à-dire que tu as oui. des missions d'action, par exemple, un peu scripté à la Call of, on va dire, ou des trucs comme ça, partons sur cette référence, on va dire, même si c'est pas tout à fait ça. Mmh. Ou par exemple, quand tu te bats avec, comment il s'appelle, le guerrier, le japonais, en fait, du corps japonais, en fait.
L'homme de main,
ça. À un moment donné, t'as une pure scène d'action, en fait, oui. en bagnole de poursuite, etc., etc., qui, moi, je trouve, fonctionne super bien, quoi. Tu vois, je veux dire, et là, pour le coup, c'est un wow moment. Le braquage, c'est un wow moment aussi. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Clairement, un truc.
Mais je parlais vraiment de, tu vois, dans la structure de l'histoire, tu vois, vraiment de grands envolées, tout ça.
Non, c'est clair.
Et ce que tu disais, c'est que justement, en fait, pour moi, c'est un jeu de personnages, en fait. C'est un jeu où ce qu'on suit, c'est des itinéraires de personnages. Et c'est comment ces personnages-là se dépatouillent dans un univers qui les écrase, en fait. Et comment ils arrivent à survivre là-dedans. Et c'est vrai que chaque personnage a une part de. Un peu de. Ouais, de désespoir ou de. Juste de. Ils se noient, en fait, dans cet univers-là. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir un jeu qui va plus s'axer là-dessus. Même si The Witcher faisait déjà un peu ça, mais. Avec quand même une vraie histoire assez forte, avec des vrais rebondissements dans le sens twist. Était aussi sur les personnages, et je trouve que là, ils sont encore allés plus loin dans comment on intègre ces personnages-là dans une histoire et comment on conçoit notre histoire avec ces personnages.
Allez, on va passer à la rubrique On en pense quoi sur 20, parce que je vois que vous êtes déjà parti sur. Voilà, mais alors on en pense quoi sur 20, non pas en 2020, mais en 2022, c'est-à-dire vraiment aujourd'hui. Avec, voilà, on va pas faire semblant, avec ces deux ans passés, avec peut-être qu'on y a rejoué un peu, peut-être avec le regard d'aujourd'hui un peu plus indulgent ou pas d'ailleurs. On en pense quoi sur 20, Stéphane, aujourd'hui ?
Ouais, alors sur 20, je sais pas, mais en tout cas, même avec le recul, en fait, c'est un jeu qui m'est resté ces dernières années. C'est-à-dire vraiment, il y a un truc de, comment dire, je me rappelle du jeu, je me rappelle de ce que j'ai ressenti, je me rappelle de ce que j'ai joué. Et par exemple, je sais que quand ils ont fait les premières présentations, pour moi, un open world, j'ai du mal en général avec l'idée d'en faire un FPS. Si tu veux. C'est-à-dire que le FPS, c'est un genre, c'est bon, parce que souvent, en fait, si tu veux, le quand tu viens du cinéma comme moi, la question en fait du point de vue, la question de la caméra, elle est hyper importante en fait. Mais dans le jeu vidéo, c'est pas forcément automatique. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, c'est un genre. C'est-à-dire on a créé le FPS au début des années 90, et puis en fait, si tu veux, il y a un genre qui dérive là-dedans, et puis on l'a fait évoluer, etc., etc. C'est très intéressant. Mmh. Mais c'est pas en fait forcément du point de vue narratif, on va dire, ou du point de vue machin. Là, en fait, j'avoue que j'avais une première déception à me dire, putain, mais un open world, pourquoi en FPS ? Moi, je préfère ça évidemment à la troisième personne. Je préfère un truc immersif comme ça, etc., etc. Dans le monde, tu vois. Et en fait, quand tu joues au jeu, c'est totalement cohérent. Et c'est totalement cohérent parce que justement, je rebondis sur ce que disait Pierre en fait à l'instant sur les personnages. C'est-à-dire que créer la relation entre ton propre personnage et le personnage en fait de Keanu Reeves, qui est une conscience en fait, si tu veux, et qui n'apparaît que pour toi, si tu veux, tu pouvais faire que à la première personne en vrai. Donc ils se sont posé cette question-là sous cet angle-là. Ils se sont dit, quel est notre truc si Keanu Reeves apparaît à la troisième personne, tu vois? Est-ce qu'il apparaît pour les autres personnages qui sont dans le cadre, en fait, si tu veux, de ce que tu joues, même si tu bouges la caméra comme tu veux, etc., etc. Tu vois, non, il apparaît dans ta tête, il apparaît dans ton champ de vision. Ce qui fait qu'en fait, si tu veux, ça crée une espèce de proximité de facto, en fait.
Et pour moi, c'est assez cohérent avec le jeu de rôliste. Enfin, quand c'est ça. On joue un rôle et donc, de fait... c'est un peu une coquille vide. Enfin, c'est nous qui sommes chargés de jouer le rôle.
Même si V a quand même une personnalité.
Mais on l'a choisi. On a cadré le personnage, donc ok, mais on va jouer ce rôle-là. Et on l'a déterminé quand même de base. Hein. Ouais. On l'a quand même déterminé.
Et ça, mine de rien, en fait, si tu veux, c'est un truc en fait qui, moi, je trouve, donne énormément en fait d'impact en fait sur le relationnel avec les personnages. Ce qui fait que, en fait, il y a pas, je trouve, une. Alors, la qualité de l'écriture est là aussi, la qualité d'interprétation de Keanu Reeves. Keanu Reeves, c'est un acteur que j'aime bien. C'est un mec qui est charismatique et tout. C'est une star, il y a une aura de star, mais faut quand même reconnaître que c'est pas le plus grand acteur au monde, hein. Il a quand même un balai dans le cul.
C'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande.
Non, non, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais là, pour le coup, il est incarné, il fonctionne vraiment bien, et tu crois totalement en fait à ce personnage-là, ce côté rock'n'roll et tout ça. Quoi. Donc du coup, c'est ce truc en fait qui fait que, pour moi en fait, ce relationnel, c'est même pas un buddy movie. Hein. C'est que tu vois dans ce que l'histoire raconte. Alors je vais spoiler un truc qui est au début du jeu. Tu crées un relationnel avec parce que souvent en fait le truc aussi avec le FPS c'est que quand tu veux raconter une histoire à travers un FPS et surtout pour un truc aussi long que Cyberpunk qui est aussi tentaculaire, c'est que mine de rien le fait d'avoir un perso que tu suis, ça permet un échange de dialogue qui te permet de découvrir le monde à travers ce que lui sait déjà et ce qu'il te véhicule comme information. Cette fonction là c'est le personnage de Jackie au début en fait, qui, si tu suis l'histoire très vite, va disparaître très vite puisqu'il se fait tuer en fait, si tu veux, dans le braquage, quoi, dans le braquage, je crois, après, tu vois. Après, voilà. Et en gros, si tu veux, déjà, t'as un vrai sentiment de perte en fait, de deuil en fait, si tu veux, qui est intéressant parce que, en gros, si tu veux, c'est le mec sympa, tu vois, bourru, machin, etc. Le personnage, je trouve, fonctionne super bien.
Et alors, parenthèse, il y a un truc génial justement, c'est que on peut appeler son répondeur.
Ouais.
Et on peut laisser un message, une sorte de deuil en fait, parce que le personnage le vit très mal en fait, cette perte-là en fait.
Et en fait, du coup, ce personnage il est remplacé par Keanu Reeves. Et d'un seul coup, tu recrées. En fait, je parle pas de dans l'histoire, mais vraiment dans ton rapport en fait, si tu veux, à la caméra et ton rapport en fait au monde et ton rapport à tout ça. Et en fait, du coup, ça crée encore une connivence, parce que le manque que t'as de ce personnage-là se redéfinit avec le personnage de Rojaï, avec le personnage de Keanu Reeves. Voilà. Et en gros, tout ça, c'est ce qui donne en fait une espèce de mélancolie au jeu. Un truc en fait assez pas mortifère mais un truc assez doux, et voilà ce qui fait que moi quand je suis arrivé sur ma fin à moi, c'était presque la fin la plus logique, la plus tarkovskienne en fait, tu vois, la Tarkovski, tu vois, que je pouvais avoir pour un jeu de bourrin, parce que c'est un jeu de bourrin, tu vois, c'est un jeu d'où tu shootes, tu tires, la dynamique de tir elle fonctionne très bien, t'as un gun qui fait des multiples tirs en fait, tu shootes trois mecs en même temps, c'est super cool, tu vois, t'as tout un tas de trucs comme ça en fait, d'armes en fait, de SF et tout ça, d'armement, tu vois, qui fonctionne très très bien. Il y a une pareil un sniper en fait, si tu veux, où t'éclates les têtes des gars, plus tu les pousses et plus t'éclates les têtes des gars, enfin c'est complètement voilà quoi, donc c'est un truc de veau. C'est un truc de bourrin total, mais en même temps, en fait, si tu veux, t'as les deux, quoi, si tu veux. Et pour moi, ça, mine de rien, c'est, en fait, c'est ce que j'aime, moi, en fait, cette espèce d'ascenseur émotionnel, si tu veux, entre le très brutal, le très direct, le très violent, et en même temps, la mélancolie totale, humaine, humaniste, tu vois, qui
peut... Oui, sur les moments peut-être plus reposés, ou les moments de pause et de dialogue. On en pense quoi sur 20, Pierre?
Je suis un peu dans la même ligne que Stéphane. Enfin, moi, j'ai encore des soucis avec
voir le. Avis.
Bah, c'est parfait. J'ai encore des soucis avec les. Enfin, pour y avoir rejoué récemment, effectivement, il y a eu des problèmes corrigés. Il y a quand même encore beaucoup de soucis en termes d'immersion, parce que, c'est notamment. Enfin, il y a des personnages qui pop derrière soi, des voitures qui se comportent n'importe comment. Donc, ça peut séparer un petit peu le joueur de ce qui se passe à l'écran et casser un peu l'immersion. Après, ça mis à part, ce qui pour moi est un souci clairement, mais qui n'est pas un souci extrêmement grave maintenant non plus. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a des moments effectivement extrêmement beaux dans le jeu qui m'ont marqué. C'est-à-dire que au début, forcément, il y a une frénésie. On a sûrement ce braquage, on arrive dans une ville où tout le monde est armé, où il y a des factions partout. Les premières missions, c'est vraiment des missions de shoot pures. Et en fait, d'un coup, il y a une mission comme ça où on rencontre une jeune femme qui fait partie d'une tribu dans le désert, justement, parce qu'il y a aussi un petit désert qui fait partie du monde ouvert à côté de la ville.
Les nomades.
Les nomades, ouais. Et en fait, avec cette fille-là, se crée une sorte de lien assez intime rapidement, mais qui a une gradation assez jolie en fait, dans l'intimité. Où, en fait, elle est un peu rejetée par sa tribu, et elle va vraiment se confier sur qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle cherche en fait, dans ce monde-là. Il y a toute une phase en fait, où on est avec elle en bagnole dans le désert, justement. Et il y a limite un côté road movie, limite à Nomadland, en fait, où c'est très long, ça prend du temps, c'est que la discussion. Et à la fin, on va la laisser juste dans un espèce de diner où on peut en fait, le revoir après, lui laisser son numéro. Mais il y a un truc de juste une espèce de rencontre fortuite qui a été très belle et hyper calme dans un environnement extrêmement violent en fait. Et c'est un jeu qui est très fort pour ça, parce qu'il arrive toujours à être sur la ligne par rapport à ça, avec beaucoup de montées de puissance et beaucoup de petites descentes comme ça. Et ce qui était aussi encore une fois dans le cas dans The Witcher, justement, avec la relation entre Geralt et Yennefer, qui était à la fois très violente et avec un moment de confession amoureuse qui est un des plus beaux, je trouve, dans le jeu vidéo. Et là, c'est vraiment ça, j'ai senti l'émotion et la sensibilité en fait des gens qui ont fait ce jeu là et qui marche bien malgré ce côté bourrin à côté. Et c'est, pour moi, c'est un jeu qui vaut le coup pour ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas laissés enfermer. Dans le côté, ben, c'est cyberpunk, c'est bourrin. On va avoir que des thématiques extrêmement... alors, elles sont là, la thématique dramatique, mais avec toujours un petit espoir, toujours une petite lumière, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cyberpunk tout le temps. Et je trouve que c'est un jeu qui c'est beau pour ça. Ouais.
Avec un attachement au personnage, parce que ce que tu pointes en fait du doigt, c'est qu'il y a un truc qui est déjà, je trouve... Alors, on sait maintenant que c'est un peu l'apanage, si tu veux, des mondes ouverts, parce que Skyrim l'a fait, en fait, si tu veux, à l'époque. Et mine de rien, c'est une bonne façon de procéder. C'est-à-dire que dans l'explo... Dans l'exploration en fait de ton univers, tu rencontres des gens au fur et à mesure. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein, Jean. Il y a finalement assez peu de choses à faire dans ce monde-là, si tu veux. Mais je trouve que le monde existe à travers les personnages malgré tout, parce que ce personnage-là, en fait, tu peux le perdre. Tu peux ne pas le rencontrer. Il y a un personnage, en fait, parce que ça fonctionne un peu comme les storylines d'amour, d'histoires d'amour dans Mass Effect, tu vois, ce genre de choses. En fait, si tu veux, où t'as des histoires d'amour, en fait, des attachements avec des personnages, mais pas forcément. Déjà suivant. Si tu choisis de te faire un personnage féminin ou masculin, tu peux te retrouver en fait avec certains personnages qui seront des personnages où tu auras une aventure hétérosexuelle et d'autres avec lesquels tu auras une aventure homosexuelle. Et en fait, aussi, ce choix-là, en fait, si tu veux, fait que si tu rencontres pas certains personnages-là, puisque c'est des personnages secondaires à l'histoire, tu peux tout simplement passer complètement à côté. Ce qui est dommage, parce que déjà, ça génère... suivant certains persos, ça génère des fois 7-8 heures de jeu supplémentaires, ce qui est pas rien, dans un monde comme ça, quoi. Et aussi des histoires hyper touchantes, en fait. Moi, j'en reviens sur Jackie, par exemple. Le truc qui est tout bête, c'est que, en fait, si tu te poses la question, en fait, si tu travailles sur ce manque-là, tu peux aller voir sa mère, discuter avec sa mère, et qui t'a recueilli, pour lesquelles tu as été un fils ou une fille pour elle aussi. Et en fait, tu te retrouves à un enterrement. C'est juste un enterrement. Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de... La mission, c'est d'aller à l'enterrement. Et mine de rien, bon, moi, je sais que j'ai un peu de mal en général avec ce genre de, comment dire, de trucs que narratifs, en fait, si tu veux, où on te fait aller d'un point A à un point B, finalement, pour suivre une cutscene ou je ne sais pas quoi, tu vois. Mais en gros, déjà, ils ne le font pas non plus totalement tout le temps, quoi. Mais en fait, c'est totalement équilibré avec le reste des missions où tu vas te retrouver avec des fetch quests ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Parce que mine de rien, il faut aussi trouver un moyen de faire évoluer ton personnage par rapport à toutes tes mécaniques et tout ça, etc.
Ouais, je préfère ça qu'une quête FedEx, quoi, par exemple.
Oui, bien sûr. Mais après, en tout cas, ça participe de la création de l'univers aussi, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce truc, en fait, ouais, c'est ce que je disais, de mélancolie, de sentiment en fait permanent, touchant.
Est-ce qu'on attribue le Pégase à, justement pour Cyber 2077 à ça, ou on lui donne le Pégase des personnages? Il arrive à dessiner, comme dans The Witcher, le moindre personnage secondaire est quand même bien croqué, bien dessiné, là.
Je suis assez d'accord, surtout qu'ils s'en servent très bien, dans le sens où en fait, c'est quand même, faut voir que c'est quand même une grosse ville tentaculaire qui est très verticale. Et en fait, on sent même dans le personnage principal, on sent une solitude, en fait. Et le fait de se mettre dans la peau d'un personnage solitaire qui est juste dans la survie, en fait, ça favorise le fait d'avoir envie de créer des liens avec d'autres personnes. Et ça, pour le coup, le jeu le fait très bien. Et je suis assez d'accord, effectivement, c'est un jeu qui mériterait d'avoir justement une récompense, entre guillemets, sur sa conception de la relation humaine et comment on perçoit les personnages en face de nous. Ouais.
Moi, je rajouterais un truc par rapport à ça.
C'est des gros flingues.
Non, quand même, c'est l'univers, le monde. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en gros, on est aujourd'hui dans un système. On en a un peu parlé avec Elden Ring la dernière fois, ce genre de choses, en fait, où la pop culture s'auto-bouffe, en fait, s'auto-phagocyte. C'est-à-dire que même nous, dans le jeu vidéo, c'est moins grave que dans le cinéma, hein, où on se retrouve avec des films de super-héros en permanence, et surtout.
Oui, c'est plus sec au cinéma, je trouve. Hein,
voilà, même si au cinéma, on va dire que les gens te diront oui, mais il n'y a que 8 ou 10 films de super-héros par an, c'est eux qui prennent en fait tout le spotlight, c'est eux qui prennent tout le truc, et au final, en fait, si tu veux, tu te retrouves avec. Mais même sans forcément parler de super-héros, parlons de Star Wars, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tout se phagocyte et tout se ressemble, quoi. Et là, en fait, mine de rien, Cyberpunk, même si ça vient d'une. Comment dire.
Un jeu de rôle, 80, pas,
voilà. Oui, ouais. Déjà, ces jeux de rôle-là, on avait visuellement, c'était pas aussi poussé. C'était à nous de nous faire nos propres films.
Exactement.
On y jouait, quoi. Tu vois. Et là, en fait, il y a une vraie création d'univers original dans la logique d'un truc cyberpunk. Hein. Quand tu vas chercher Keanu Reeves là-dedans, c'est pas rien non plus, puisque Keanu Reeves, il a fait un film cyberpunk affiché qui était Johnny Mnemonic, qui était clairement une adaptation de William Gibson, on sait, ce qui est quand même le pape du cyberpunk à la base, quoi. Et en fait, il a fait Matrix, qui est en fait aussi un truc extrêmement représentatif du mouvement, quoi. Donc, même si c'est beaucoup plus tardif, et voilà. Donc, du coup, quand t'as Keanu Reeves là-dedans, évidemment que c'est un référent, si tu veux, pour les gens qui connaissent le cyberpunk, quoi. Mais et lui-même, je pense, est très versé là-dedans, quoi. Ça l'intéresse vraiment. Mais le truc que je veux dire, c'est que Même si tu penses à Blade Runner, même si tu penses à, tu vois des voitures qui volent, même si tu penses en fait à tout ça, t'as comment dire en fait une vraie ville, une vraie esthétique, un vrai truc qui moi je trouve en fait détonne. Ouais. Et je pense que si ce jeu était vraiment totalement réussi, s'il était sorti avec, et je dis pas que parce qu'il aurait pas été buggé, hein, même s'il était vraiment réussi, même s'il y avait plus de d'interaction avec la ville, même si tu pouvais un peu plus aller bouffer, tu vois par exemple si tu veux. Il y a ce problème en fait de choix entre monde ouvert et RPG, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas par exemple dans un jeu à monde ouvert, quand tu vas manger, si tu veux un burger ou je sais pas quoi, ça a une fonction spécifique mais qui est quasi automatique, elle est automatisée par le fait de le faire. Là, quand tu vas là-bas, tu achètes un truc que tu mets dans ta besace en fait et que tu décides d'utiliser plus tard ou pas. Et là, ça c'est une fonction RPG et je trouve que ça, je comprends hein, la logique RPG, mais ça casse un tout petit peu l'immersion si tu veux, voilà. Et du coup, en fait, il y a ce choix qui est pas toujours fait. Dans les mécaniques, si tu veux, je penche dans l'un ou l'autre, en fait, peu importe, en fait, si tu veux, mais c'est juste que le choix est un peu bizarre, tu vois, à chaque fois. Il y a tous ces petits trucs qui font que peut-être, en fait, si tu veux, le jeu n'est malheureusement pas la flèche que ça devrait être, parce que si c'en était vraiment une et que les gens auraient pris le truc en pleine gueule, bah, on aurait eu on va dire, ça aurait créé une nouvelle mouvance, en fait, potentiellement, en tout cas, ça aurait fait revenir une nouvelle mouvance.
Ah bah, clairement, et ça aurait créé justement du monde ouvert en ville, ce qui est assez peu le cas, en fait. Voilà. Et vraiment des villes ouvertes comme ça, avec une vraie notion de cité explorée, avec ses recoins, avec ses histoires dans chaque ruelle. Effectivement, on l'a pas maintenant, et je pense qu'on l'aura pas avant un bon moment.
Et là, tu parles de gameplay, mais moi, je te parle aussi en fait d'univers de SF. Ouais, bien sûr, ce que je veux dire, qui change un peu. Qu'on sorte des trucs, tu vois, sorte en fait des habituels, parce que nous, dans le jeu vidéo, on a un Assassin tous les ans, on a un Call of tous les ans, on a un truc tous les ans. Et je dis pas qu'il faut un Cyberpunk tous les ans, mais au moins, en fait, si tu veux, la démonstration qu'on peut faire de la SF différente.
Je pense qu'ils vont avoir, du mal.
Non, ils vont avoir du mal.
Pardon, excuse-moi, je tape un peu sur l'ambulance.
Non, mais c'est vrai.
Non, il vaut mieux pas là. Déjà tous les 8 ans, ils souffrent un tout petit peu.
C'est un peu compliqué. Mais effectivement, enfin, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va freiner les velléités d'autres studios qui auraient voulu aller sur ce terrain-là. Et je pense qu'il y a un
vrai... Attention, peut-être tant mieux aussi. Hein, parce que peut-être aussi, là, ils se disent « Ah, tiens, on va le faire. Ah oui, mais non, on va pas le faire. » Non, parce qu'en fait, ce que ça demande comme ressources, comme créativité, comme, tu vois, c'est pas que la créativité, là. C'est les ressources, c'est les talents, c'est les gens qui ont de l'expérience dans ces domaines. Il n'y en a pas tant que ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tant de studios qui font des films monstres, hein, qui sont un peu... Des jeux monstres, j'allais dire. Je le confonds avec les films, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est des œuvres qui sont... On en parlait avec Red Dead 2, on en a parlé très souvent sur des œuvres comme ça, qui sont un peu des œuvres monstrueuses. Et peut-être qu'ils avaient... Et tant mieux, ils n'ont peut-être pas vu le... Voilà, ils ne seraient peut-être pas allés en se disant, oh là là, qu'est-ce que ça va être compliqué. Ça ils l'ont fait, tant mieux. Je pense qu'il y aura un 2. D'ailleurs, on arrivera peut-être à la conclusion de ce podcast. C'est quand la suite? Mais moi j'espère qu'il y aura
déjà un DLC hein, parce que c'est ils ont plus ou moins alors ils sont réfrénés là-dessus si j'ai bien compris. Ils sont censés faire un DLC ils étaient censés en faire deux si j'ai bien compris. Sur Witcher ils sont quand même très conséquents sur Witcher 3.
Oui, c'est très
Et là en fait finalement ils parlent d'un DLC pour 2023.
Oui, parce qu'il y a les mises à jour, oui, bon, puis, bref, fin, beaucoup de travail.
Et même sa mise à part, ils ont annoncé un nouveau Witcher aussi il y a pas longtemps. Donc enfin je pense que Cyberpunk, ils vont le laisser tomber assez rapidement parce que c'était un gouffre pour eux, ça a été un gros problème de visibilité enfin des joueurs par rapport à eux. Comment les joueurs ont perçu ces projets qui, pourtant, à un moment donné, étaient le parangon en fait, du respect pour les joueurs parce qu'ils avaient enlevé les DRM, parce qu'ils avaient fait The Witcher, parce que c'était eux qui étaient derrière GOG aussi.
C'est eux qui sont derrière GOG, hein, donc on le rappelle, hein, qui est une plateforme de vente.
Et c'est vrai que ça a beaucoup joué sur leur réputation. Et clairement, j'ai l'impression qu'ils veulent l'oublier un peu. Ils vont continuer à l'alimenter avec un DLC, mais je pense qu'ils vont passer à autre chose assez rapidement.
Moi, j'espère que non.
J'espère que non aussi.
Mais ça mettra une décennie.
Je trouve qu'en fait, il y a des très bonnes bases. C'est-à-dire, en fait, pour faire vraiment une suite qui va tout défoncer, quoi.
Exactement.
Enfin, je veux dire, suivons une logique, parce que tout ça, on sait que c'est de la masterisation, en fait, d'équipe, en fait, que les mecs, ils commencent à travailler, ils deviennent seniors au fur et à mesure, quoi, si tu veux, des développements. Et en fait, le truc avec un GTA 3, c'est que, tu prends une claque avec GTA 3 au moment où c'est sorti, parce que les mecs, ils passaient à la 3D. Mais en fait, en gros, tu vois bien, en fait, que, en fait, les mecs, ils ont masterisé avec GTA Vice City, avec GTA San Andreas ensuite.
Vice City, c'est
le. Et du coup, en fait, même si là, c'était des temps de développement beaucoup plus courts hein, et puis rapprochés, quoi, moi, je pense que justement, en fait, cet univers-là, il y a les bases, elles sont toutes là. Et si, en fait, ils ne font qu'itérer en qualité sur ces bases-là, en fait, tu peux faire une vraie tuerie avec la suite, quoi. Une vraie tuerie.
Ah, mais quand je veux dire justement oublier, c'était oublier ce jeu-là. Après, pour une suite, effectivement,
Ouais, ça serait dommage, de laisser tomber toute cette expérience. Encore une fois, l'expérience du monde ouvert, ils l'ont. Même si The Witcher 3, on me dira toujours qu'il y a des téléchargements entre les zones. Je rappelle que dans Elden Ring, il y a des téléchargements entre les zones. Les ascenseurs, c'est pas fait pour les chiens. Ça se déguise des téléchargements. Surtout quand l'ascenseur dure au moins une minute et que t'es là. Ouais. Dis donc, il est un peu long. T'as plus d'ascenseur.
Mais il y a des conversations.
C'est ce qu'on appelle la jurisprudence Mass Effect.
Mais c'est pas très grave. Mais The Witcher 3 a été pensé comme une zone. Mais seulement, il y avait qu'une ville au milieu, enfin il y en avait plusieurs, mais il y avait une vraie grande ville qui était chouette, mais c'est pas un univers urbain ou quasi urbain. Et je pense que cette expérience là, elle est quand même quasi, enfin ça vaut de l'or sur le marché, enfin c'est à dire que ça vaut de l'or dans le secteur, il n'y en a pas tant que ça.
Et au-delà de ça, je pense qu'en fait, si tu veux, un jeu comme Cyberpunk 2077, on sait que ça a coûté à peu près 200-250 millions, ce qui est quand même assez énorme dans le jeu vidéo, même si aujourd'hui beaucoup de jeux commencent à coûter. Ces choses là quoi. Le truc, c'est que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui a été aussi mis dans le world building. C'est-à-dire vraiment dans l'idée de créer une ville, de créer un univers, en fait, esthétique, etc., etc., qui fait que, en fait, ce serait complètement stupide de le mettre ça de côté, parce que tu parles de 18 millions de ventes, mais c'est plutôt un bon chiffre, tu vois, eu égard à toutes les merdes qu'ils ont eues, quoi. On peut imaginer que s'ils arrivent à un peu inverser la tendance au fur et à mesure, en fait, des mises à jour
et un DLC, c'est possible.
Que les gens qui vont y jouer vont inverser aussi le bouche à oreille, quoi, si tu veux. Donc voilà, moi de mémoire, d'après ce que j'ai compris, Witcher 3 était sorti aussi pas mal buggé.
Oui, c'était
jusqu'à ce qu'il
pas autant, mais c'était compliqué.
Comme la plupart des mondes ouverts. Comme la plupart des mondes ouverts. Enfin, c'est-à-dire buggé, qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce qu'il y a des bugs, des petits bugs, des gros bugs ? Skyrim, voilà, c'est un exemple flagrant.
On m'a expliqué.
Ça n'a pas empêché de se vendre, Skyrim.
Oui, c'est qu'en fait,
Skyrim était optimisé sur pas mal de choses.
Le truc, c'est que en fait, ils ont un peu fait la même erreur qu'avec The Witcher 3, c'est qu'en fait, ils l'ont montré. Ils ont montré des images qui étaient extrêmement belles et en fait il y a eu un downgrade assez dur à la sortie et effectivement ça a joué aussi. Ils ont mis un an effectivement à récupérer les joueurs. Ouais.
Merci Stéphane, Pierre, merci pour ce retour sur Cyberpunk 2077. Moi j'ai bien envie c'était bien du.
Ouais, d'accord. Non,
moi ça m'a donné envie de
rejouer.
Ouais, carrément.
Bah écoute, on espère qu'on va un peu inverser la tendance. Moi je pense que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Hein. C'est-à-dire que en fait si vous aimez ce genre d'univers, etc., etc., c'est différent quoi. Il faut ça vaut le coup de tenter de retente, Jean.
PS4, toujours pas PS4. Même la pro, vous prenez pas. Même pro ou pas pro, pas de old gen. Hein. Là, vous avez la nouvelle gen et puis c'est tout. Merci Alain qui était à la réalisation de cette émission. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Bientôt en vrai, vous verrez nos vrais et beaux visages.
Un jour, on va filmer tout ça, de
magnifiques déguisements. Ça va être complètement grandiose, je dirais. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Salut tout le monde.